Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimaouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Lutte contre le sida au Mali quand les chiffres alertent. C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Plus de 119 300 personnes vivent avec le sida au Mali. Des chiffres qui ont été révélés le vendredi dernier lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le slogan de cette année est « Confier le leadership aux communautés ». L'occasion est mise à profit pour faire le bilan de la lutte contre la maladie et sensibiliser les populations. Où en sommes-nous avec les recherches sur le sida? Peut-on en guérir? Ces questions seront répondues par nos invités du jour. Ils sont Dr Bassirou Diallo, Sciences Service System Advisor à ONU SIDA. Avec nous également Ousmane Traoré, chef de département planification suivi évaluation au secrétariat exécutif du HCLLS. Mariam Touré, porte-parole de l'Association des personnes vivant avec le sida et présidente de l'association ERMA+. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question, nous allons l'adresser à Dr Bassirou Diallo de ONU SIDA. Dans le monde, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui seraient atteintes du VIH-SIDA?
Ok. Merci, Mariam. À l'entame de mes propos, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes du SIDA. Et par ricochet pour l'ensemble des victimes de la crise que subit le Mali. Je voudrais vous dire que l'ONU SIDA publie régulièrement le rapport mondial de lutte contre le SIDA. Le dernier rapport en date vient juste d'être publié au mois de juillet passé. Et ce dernier rapport nous dit, c'est le rapport de 2023, mais qui présente les données de 2022. Et ce rapport nous -1. Ce rapport nous dit qu'il y a actuellement 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Durant l'année écoulée, il y a eu 1,3 million de nouvelles infections. Il y a eu 630 000 décès liés au sida. Malheureusement, la partie de l'Afrique au sud du Sahara paye un lourd tribut aussi par rapport à cette infection. Donc globalement un peu, ça c'est la situation par rapport au dernier rapport que nous venons de publier.
Est-ce que ces chiffres doivent inquiéter aujourd'hui?
Ces chiffres doivent inquiéter. Je ne dirais pas inquiété parce que pour moi, nous devrions sortir de cela. Mm-hmm. Mais ces chiffres doivent nous interpeller. Ces chiffres doivent nous interpeller parce que le sida n'est pas encore fini. On a tendance à en penser que c'est une maladie qui est derrière nous, mais ces chiffres nous attirent l'attention que le mal est encore là et que nous devrions travailler dur pour aller vers l'élimination du sida à l'horizon 2030, qui est un objectif que nous nous sommes fixés de façon collégiale au niveau mondial. Donc, pour moi, ça doit être un défi. Ça doit être un défi. Je pense qu'au niveau mondial, on est conscient que c'est un défi. Il faudra tout faire pour renverser la trajectoire d'ici à 2030.
Monsieur Ousmane Traoré, plus de 6200 personnes contaminées par le sida en 2022 au Mali, soit 100 personnes par semaine et 17 par jour. Qu'est-ce que ces chiffres reflètent?
Bonjour, merci Mariam. Merci de m'avoir posé la question. Et au fait, quand vous... L'ampleur du VIH, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est... Je dirais au Mali que c'est un pays alarmant parce que nous n'avons pas atteint les objectifs par rapport à ce qu'on s'était donné. Alors malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau, surtout pour adresser les différentes cibles qu'on s'est définies. Alors il est important que nous travaillions de concert avec toutes les parties prenantes pour permettre de baisser d'abord les nouvelles infections. Et ça, ça passe surtout par la prévention primaire qui est le dépistage. Ensuite, vient la mise sous traitement qui permettrait d'éviter des nouvelles infections. On en viendra au cours du débat.
Si on doit faire une comparaison, est-ce qu'on peut dire qu'en 2022, il y a eu moins de personnes contaminées par rapport à 2021? Il y a eu une hausse ou bien une baisse du taux de contamination si on fait une comparaison des deux années, 2021 à 2022?
Bon, ça, à ce niveau, ça décline un peu, ça fléchit d'année en année, mais malheureusement, ce n'est pas au rythme que nous souhaitons. Et 6200 cas déjà comme nouvelle infection, il y a par ailleurs aussi 4900 décès, vous voyez. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaye de contrôler la maladie au niveau pays. Alors, quand on regarde les objectifs, nous sommes à peu près à 50% des personnes vivant avec le VIH sous traitement. C'est-à-dire qu'on est parvenu à mettre 50% des personnes vivant avec le VIH au moins sous traitement. Et ça, c'est une prévention aussi. Et maintenant, c'est l'accélération surtout du dépistage qui fera que, et la mise sous traitement qui fera que on puisse atteindre les objectifs ciblés.
Madame Mariam Touré, vous êtes la porte-parole de l'Association des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Vous êtes également la présidente de l'association RMA+. Plus de 6200 personnes qui seraient contaminées en 2022 par le VIH-SIDA. Qu'est-ce que votre organisation et vous pensez de ces chiffres?
Bonsoir tout le monde. Merci Mariam de m'avoir invitée sur ce plateau. Donc, ces chiffres, comme l'a si bien dit Dr Bassirou, nous interpellent tous. Parce que pour nous, l'objectif, c'est de freiner la chaîne de transmission. Donc, pour freiner la chaîne de transmission, il y a de ces objectifs qu'il faut atteindre parce qu'on veut l'élimination du VIH d'ici l'an 2030. Donc, si on n'atteint pas les objectifs ciblés pour éliminer le VIH, et que la chaîne de transmission continue, ça va augmenter le nombre de personnes infectées de jour en jour et d'année en année.
Monsieur Diallo, le nombre de personnes contaminées, et on ne dira pas que ça croît, mais chaque jour, il y a de nouvelles contaminations. Selon vous, c'est dû à quoi?
Oui.
À une méconnaissance de la maladie ou il y a la lutte qui est un peu à la traîne?
Oui, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a des explications qui existent. Hein. Il y a toujours la chaîne de transmission qui continue, l'effort en train d'être fait pour renverser la tendance. Et si on regarde par rapport aux années passées, des efforts ont été faits. Je peux juste vous donner à titre illustratif.
Allez-y.
Les nouvelles infections, il y a eu un pic en 1995. Et si on prend ce pic de 1995 par rapport à aujourd'hui, on a réussi à réduire les nouvelles infections d'environ 60%. Précisément 59%. Ça, c'est le donné du dernier rapport. Donc, on a réussi à réduire considérablement. Mais ces chiffres, ce n'est pas une victoire. Moi, j'ai dit autour de 60%, ça veut dire que 40% des nouvelles infections continuent à se faire. Donc, chaque fois qu'il y a une personne qui est infectée par le VIH, nous devons nous sentir interpellés. Et maintenant, les causes, elles peuvent être multiples. Quand on regarde déjà à l'échelle pays, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens en termes d'investissement dans la lutte contre le sida. Ça, c'est un grand défi. Et il y a des inégalités qui existent entre pays, mais aussi des inégalités qui existent au sein des mêmes pays. Et donc, il y a un problème de mobilisation des financements. Mais aussi, il y a des problèmes organisationnels qui font que souvent aussi, même si les financements sont là, on n'arrive pas à atteindre les cibles, on n'arrive pas à exécuter confinement les programmes comme prévu. Donc, cet aspect organisationnel, je pense aussi, surtout dans beaucoup de nos pays, ça, on a beaucoup travaillé pour renforcer l'organisation, la coordination de façon générale, pour que nous puissions potentialiser les financements que nous disposons. Il y a aussi, au niveau opérationnel, il faudra toujours ça rentre dans le cadre de la coordination et de l'implication. Il faudra que il y a une plus grande implication des acteurs à tous les niveaux, que ce soit d'abord au niveau des structures étatiques, je parle des structures de santé et autres, il faudra que ces structures se sentent concernées par la lutte contre le sida. Il ne faudra pas que la lutte contre le sida soit considérée comme une lutte d'une personne. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons dans certaines de nos structures de santé. Quand vous rentrez dans une structure de santé, on va vous dire telle personne est Mme Pétiumé, telle personne est le point focal VIH. Donc, comme si cette personne n'est pas là, aucune activité de lutte contre le sida ne se fait. Donc il faudra qu'on arrive à faire en sorte que tous les acteurs, tous les personnels socio-sanitaires se sentent concernés par la lutte contre le sida et que se considèrent comme acteurs de la lutte contre le sida. Et ça, si on réussit à faire cela, ça va nous aider à faire un pas énorme dans la lutte contre le sida. Mais aussi, il faudra renforcer l'implication communautaire. Certes, le Mali a fait des pas énormes. Et quand on prend le financement, qui est le plus gros financement de la lutte contre le sida au Mali, qui est le financement du Fonds mondial, un des bénéficiaires, un des PR, le bénéficiaire principal, c'est une structure de la société civile, une structure de la communauté, Arcade Santé Plus. Donc ça, on a fait d'énormes pas dans ce sens. Mais il faudra continuer à renforcer l'implication. Il faudra qu'on aide d'autres structures à émerger, comme Arcade Erro, pour arriver au niveau, au même niveau que Arcade. Il faudra qu'on ait plusieurs Arcades au Mali, que des structures émergent un peu partout pour faire en sorte que nous puissions accompagner ces structures décentralisées de l'État au niveau communautaire. Parce que ces structures communautaires contribuent à faire en sorte que la demande, on puisse booster la demande. Et quand la demande est boostée, les structures étatiques sont là pour assurer la prise en charge, le dépistage, la prise en charge et autres. Et en ce moment, nous devrions renforcer les coordinations et tout pour faire en sorte que quand les gens viennent au niveau de ces structures, qu'il n'y ait pas de rupture, ni rupture des tests de dépistage ou rupture de médicaments. Et donc voici un peu, il y a un ensemble de dispositifs, il y a beaucoup de leviers sur lesquels il faut agir en même temps pour arriver à avoir des résultats.
Beaucoup de leviers sur lesquels il faudra agir. Monsieur Ousmane Traoré, 17 personnes contaminées par jour, comme vous l'avez dit, c'est énorme. Au Mali, qu'est-ce qu'il explique? Quelles sont les causes de cette chaîne de contamination au Mali? Pourquoi il y a autant de personnes contaminées par jour?
Okay, merci. Et c'est, en fait, je dirais que c'est un peu du... Quand on regarde, on fait un peu la topologie des chiffres, des données statistiques qu'on a à notre niveau. On voit plus qu'il y a des nouvelles infections qui sont un peu plus concentrées sur certaines tranches d'âge.
Mm-hmm. Qui sont?
Sur certaines tranches d'âge.
Mm-hmm. Les tranches d'âge, ça va de quel âge à quel âge, par exemple?
Ok.
Les femmes ou les hommes?
Les plus jeunes. Mm-hmm. Et c'est encore sur le pôle des femmes. Mm-hmm. Et quand on regarde, par exemple, 15 jusqu'à 20 ans, 15-19 ans, 20 à 24 ans, là, on sent qu'il y a beaucoup d'infections à VIH à ce niveau qui s'opèrent, et avec des pics par rapport aux autres tranches d'âge. Et aussi au niveau des nourrissons au Mali, et par l'entremise de la transmission mère-enfant. Bon, et ça, c'est dans le système sanitaire. Et bon, quand on regarde de façon directe. Maintenant, quand on regarde au niveau, il y a aussi les disparités géographiques à citer qui fait que l'offre de services n'est pas partout au Mali. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une couverture, mais la couverture totale, mais la couverture n'est pas totale sur le pays, notamment dû à certaines la crise multidimensionnelle, l'insécurité entre autres, et le Covid-19 qui est venu s'entremêler dans tout ça, qui fait que même le VIH aussi souffre des mêmes maux que le système de santé du Mali. Alors la couverture de l'offre de services n'est pas totale. Alors cela fait qu'on ne peut pas, même si on a les moyens aujourd'hui, d'aller vers certaines populations. C'est un peu difficile. Là où il n'y a pas de médecins, on ne peut pas parler de traitements, ainsi de suite. Alors, c'est surtout jouer sur ça pour faire qu'on ait un bon maillage du territoire et chercher aussi les zones où les foyers d'infection. Alors, on cherche à faire avec l'aménagement des ressources, surtout fait qu'on cherche, les points où on peut être plus impactant, c'est-à-dire les foyers d'infection, et notamment les zones d'ancrage bon, de développement économique, les centres des grandes villes, les zones de, comment dire, très très urbanisées, entre autres, qui font que la maladie germe plus facilement. Alors il est important que les interventions soient à ce niveau. Et quand on parle aussi de la sensibilisation, autrefois il y avait beaucoup de financements dans ce sens. Alors malheureusement aujourd'hui les financements ont tari à ce niveau. Et comme il l'a dit à les citer, le partenaire le plus important du pays actuellement c'est le Fonds mondial, qui est un peu plus focus sur les aspects, je dirais, cliniques santé de la maladie. Alors que le volet sensibilisation et information des populations reste le parent pauvre des interventions de lutte contre le VIH au Mali. Alors, avec le peu de moyens que nous disposons au niveau pays, on essaye d'adresser les cibles qui peuvent nous paraître un peu plus à risque élevé d'infection à VIH. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous, on essaye de travailler actuellement. Et on fait la politique de nos moyens, en fait.
Alors, Madame Touré, pensez-vous que la société civile a un rôle à jouer dans la lutte contre cette maladie, comme l'a dit Monsieur Diallo?
Bon, je dirais que la société civile a un rôle dans la lutte contre le sida. Mm-hmm. Parce que nous-mêmes, en tant que société civile, on est là à accompagner l'État pour la prise en charge, que ce soit médicale ou psychosociale, des malades. Donc c'est un grand rôle que nous jouons en tant que société civile, en tant qu'association des personnes vivant avec le VIH et association de lutte contre le sida. Donc on est là, on fait la sensibilisation, la prévention. Ensuite, on fait la prise en charge psychosociale des malades et de leurs familles. On fait des accompagnements à domicile pour les malades. On fait la promotion des arrêts et la défense de nos droits. Donc tout ça c'est un accompagnement de ces malades dans la prise en charge, que ce soit psychosociale ou médicale.
Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des personnes nouvellement contaminées par cette maladie et quel est leur état d'esprit en ce moment?
Bon, on rencontre des personnes nouvellement infectées. Il arrive souvent que de ces gens-là qui n'acceptent pas leur statut, nous on est là à les sensibiliser, à les faire des témoignages et leur montrer que être une personne séropositive, ce n'est pas la fin du monde, parce que le traitement est gratuit, la prise en charge est gratuite. Il suffit d'être observant au traitement pour ne plus transmettre la maladie à d'autres personnes.
Avant d'arriver à la question de l'accès au traitement et autres, M. Diallo, nous allons chercher à savoir où est-ce qu'on en est avec les recherches.
Oui, avant peut-être d'aborder cette question, je voulais un peu revenir sur certains aspects. Mm-hmm. Mon collègue ami Ousmane parlait un peu du fait que certaines tranches d'âge sont plus touchées par le VIH. Je voudrais juste donner aussi une illustration. Mm-hmm. Quand on prend un peu les nouvelles transmissions, 46% des nouvelles transmissions au niveau mondial se passent chez les jeunes femmes. Et 77% des nouvelles infections en Afrique, au sud du Sahara, se passent chez les jeunes entre 15 et 24 ans. 77% des nouvelles
infections. Est-ce qu'il y a une explication à cela?
Oui, des explications. Vous-même, vous l'avez dit, on a abandonné un peu la prévention de façon générale. Ce n'est pas qu'on le souhaite parce qu'on est en train de revenir fortement sur la prévention. Il y a des générations aujourd'hui qui ne connaissent pas le sida. Mmh. Moi, quand je prends notre génération, quand nous étions à l'école, on a été bombardés par les messages de prévention un peu partout. Mais nous, nos enfants aujourd'hui, ils ne connaissent pas le sida. Donc, ce n'est pas étonnant que nous voyons la fréquence des nouvelles infections très élevée chez les jeunes, parce qu'effectivement, à un moment donné, avec le fait qu'on a réussi à avoir un médicament, et ce médicament, en utilisant, le prenant correctement, il bloque la transmission. Et disons, on ne transmet presque plus la maladie, mm-hmm. ce qui fait que les focus ont été mis sur l'accès au traitement Du coup, le pan de la prévention a été un peu oublié. Mais nos pays sont interpellés à ce niveau. Parce que les partenaires financiers qui nous apportent de l'argent, eux, ils disent maintenant, nous venons pour vous aider, nous venons pour appuyer le pays. Nous mettons notre argent dans ce truc, dans ces aspects. Nous mettons notre argent pour acheter le médicament. Quand on prend, par exemple, l'achat des ARV au Mali aujourd'hui, presque 100% des ARV, l'achat est assuré par le Fonds mondial. Presque 100%, c'est assuré par le Fonds mondial. Donc, le bilan de suivi et autres, le Fonds mondial, il met beaucoup d'argent dans ça. Donc, peut-être en contrepartie, l'État aussi doit avoir, ok, je mets aussi de l'argent peut-être dans la prévention, parce que la prévention n'est pas prise en charge par le Fonds mondial. Donc on doit trouver on doit arriver à cet équilibre-là, pour que nous puissions aussi faire en sorte que nos jeunes soient protégés contre la maladie. Mais il y a aussi, je disais qu'il y a des inégalités entre pays et au sein des pays, mais il y a aussi des inégalités entre des catégories de personnes vivant dans une même société. Quand on prend les chiffres aussi, on voit par exemple qu'il y a un groupe de population qu'on appelle les populations clés. Et ce groupe de population, le risque de transmission est encore plus élevé chez ce groupe. Ce qui fait que les financements internationaux aujourd'hui sont beaucoup plus orientés vers ce groupe.
Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce groupe-là?
Je vais vous expliquer.
D'accord.
Ne soyez pas pressés.
D'accord.
Je vous explique. Quand vous prenez ce groupe-là,
oui.
Par exemple, il y a les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Les chiffres montrent que le risque de transmission est 26 fois plus élevé dans cette catégorie. Et cette catégorie, elle existe dans tous les pays. Donc, quand on prend les utilisateurs de drogues injectables, les chiffres disent que le risque de transmission, disons, le risque est de multiplier par 29. Quand on prend les professionnels de sexe, le risque est multiplié par 30. Et dans tous nos pays, toutes ces catégories de personnes que je viens de citer existent dans nos pays. Nous devrions reconnaître cela et nous devons accepter maintenant de faire comment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la tendance. Donc à partir de là, beaucoup les partenaires internationaux, sachant les chiffres, connaissant ces chiffres-là, mettent beaucoup plus d'argent pour protéger ces populations qui ont une probabilité d'infection plus élevée que la normale. Maintenant, en faisant cela, ce qu'on n'intègre pas suffisamment, en mettant de l'argent pour protéger cette population, on protège la population générale aussi. Parce que dans nos pays, la passerelle entre ces trois types de populations et la population générale est très mince. Aujourd'hui, quand on prend les professionnels de sexe, qui sont les clients des professionnels de sexe? Ce sont nos frères, nos sœurs, nos frères, nos contons, nos tontons, ainsi de suite. Acceptons de dire certaines réalités. Ce sont eux qui fréquentent les professionnels de sexe. C'est nous-mêmes qui fréquentons ces problèmes. Donc la passerelle est là. Si on ne fait pas en sorte qu'on bloque le risque de transmission chez ce groupe-là, quelqu'un va choper le virus là-bas et venir infecter sa famille. C'est ce qui fait que investir dans ces groupes-là, ça nous permet de protéger. Quand vous prenez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, ça existe dans nos communautés. Mais comme ce n'est pas socialement accepté dans la communauté, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est ceux qui font cette pratique-là se marient avec votre cousine, avec ma nièce, avec la tante de XX, comme couverture sociale. Mais elles continuent à avoir cette pratique. Donc, ils peuvent aller s'infecter et venir infecter cette bonne dame qui n'a rien fait à la maison. Donc, protéger ces couches particulières, c'est protéger la société. Il faudra que nous comprenions cela.
D'accord. La question que vous étiez adressée, c'était en relation avec la recherche. La recherche sur le VIH-SIDA et les traitements et autres. Comment est-ce que ça évolue sur le plan mondial?
La recherche a fait des pas énormes, énormes. Aujourd'hui, quand on prend... Moi, je pense que je suis très bien placé avec Mariam. On peut parler aisément de cela. Je me rappelle, en 2000, vers les années 2000, 2001, 2022, 2001, 2002, 2003, quand nous étions à Mopti, les traitements, les gens pouvaient prendre 16 comprimés par jour. 16 comprimés par jour. Aujourd'hui, on a un comprimé par jour. Ça, c'est une révolution. Donc, et on a des traitements très efficaces aujourd'hui. Très efficaces. quand moi j'étais dans la prise en charge, j'ai quitté de la prise en charge il y a quelques années maintenant, mais quand j'étais dans la prise en charge, nous on parlait de... Et quand tu mettais sur quelqu'un sous traitement, on espérait sur 3 à 5 mois que la personne pouvait avoir une charge virale indétectable. Mais aujourd'hui, quand tu mets quelqu'un sous traitement, au bout de 1 mois, 2 mois, avec une prise efficace, on peut avoir une charge virale indétectable. Donc le traitement a beaucoup évolué. La technologie et la technique ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous disposons des moyens très efficaces qui permettent de bloquer même la transmission. Je vous dis, quelqu'un qui est infecté par le VIH, qui fait son test, le test est positif, il commence à prendre le traitement, il prend correctement le traitement, il a une charge virale indétectable, il ne transmet plus la maladie. Même s'il fait un rapport sexuel non protégé, la personne ne transmet plus la maladie. Donc ça, je pense que ce sont des messages positifs que nous devons suffisamment véhiculer aujourd'hui pour amener les gens à aller se faire dépister et commencer le traitement. Maintenant, l'autre pendant, c'est le vaccin. Parce que l'espoir, c'est d'avoir un vaccin. Là, l'espoir pour avoir un vaccin, ce n'est pas pour demain. Ça, je vous l'ai dit clairement. Ce n'est pas pour demain. Et des tentatives ont été faites. En 2017, il y a Johnson & Johnson, celui-là même qui a eu un vaccin contre Covid, qui avait fait une tentative en Afrique au sud du Sahara en 2017. Malheureusement, les résultats n'ont pas été concluants. Donc, selon même certains chercheurs, avoir un vaccin contre le sida, on n'aura pas un vaccin contre le sida avant 10 ans.
Pas un vaccin avant 10 ans, mais selon certains chercheurs. Mais M. Ousmane Traoré, vous êtes d'accord avec M. Bassirou Diallo que les médicaments aujourd'hui sont très efficaces contre la maladie. Est-ce que sur le terrain, le constat, vous l'avez fait ici au Mali?
Bon, je peux un peu corroborer ce dire, mais bon. Et par rapport, comme il l'a si bien dit, je dirais, ils étaient dans la prise en charge depuis fort longtemps. Et la toxicité même des médicaments, aujourd'hui, on sait que ça a beaucoup baissé. Ça devient moins caustique pour les malades. Et puis, ça permet de donner une bonne qualité, une bonne hygiène de vie aux malades. Et ça, c'est par rapport à la prophylaxie traitement. Mais il y a aussi comme il n'a pas eu à donner à parler de cela, mais il y a aussi aujourd'hui des prophylaxies post-exposition, pré-exposition qui permettent, déjà si la personne a été en contact avec le virus récemment, de prendre certains médicaments pour permettre de ne pas être totalement sous le coup de la maladie. Et il y a tous ces facteurs-là. Il y a aussi dans le dépistage aussi, c'est assez léger actuellement. Il y a même des prélèvements qui se font, je crois, dans la bouche. Qui sont ou bien des auto-dépistages. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez, avec le kit, faire votre propre dépistage et les rapporter au niveau du système de santé. Et c'est des mécanismes qui ont des dispositions qu'on essaye de mettre en place pour permettre que ça puisse se faire de manière vraiment concise et que la personne, s'il a la maladie, puisse prendre les dispositions à son niveau pour permettre de se faire traiter. Et le traitement, on dit que c'est une prévention secondaire qui permet aux malades de ne pas être le chaînon de la transmission à d'autres personnes. Alors il est important qu'individuellement, que le malade s'assume à ce niveau.
Déjà, est-ce qu'il y a une disponibilité des médicaments pour les patients?
Oui, ça, on peut le garantir au niveau pays actuellement parce que comme l'a si bien dit, le Fonds mondial nous met à disposition presque la quasi-totalité des ARV, les antirétroviraux, pour les malades. Maintenant, il y a d'autres aspects qui viennent, qui sont aussi la gratuité, parce que le pays a décidé depuis 2005 de faire tout pour qu'il y ait cette gratuité des ARV, du suivi biologique pour les malades. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers cette déclaration du président, du chef de l'État, qui est le président du Haut Conseil national contre le sida, a permis aux malades d'amener les médicaments même aux malades, comme l'avait décidé à son temps le président Amadou Toumani Touré, c'est d'amener les traitements jusqu'aux malades. Au lieu que les malades ne viennent au traitement, c'est de pouvoir faire de telle sorte que les malades aient le traitement jusqu'à son chevet. Alors c'est dans cette dynamique qu'on est, on essaye de faire des interventions prioritaires ciblées sur la spécificité de la personne, des communautés, la spécificité géographique, et des interventions à l'endroit de telle ou telle couche populationnelle, ainsi. C'est tout ce qu'on essaye de faire pour faire rehausser les indicateurs et pour atteindre les cibles dans ce sens.
Madame Mariam Touré, vos co-débatteurs ont eu à l'évoquer, les médicaments sont plus efficaces maintenant et plus accessibles. Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, je suis du même avis. Par exemple, si on prend l'exemple dans les années 96-97, en ce moment, il n'y avait pas de médicaments. Même avec l'arrivée des médicaments, d'où on prenait beaucoup de médicaments en ce moment, on voyait des malades très graves, des malades qui sont comme des squelettes. Mais aujourd'hui, avec ces médicaments d'aujourd'hui-là, c'est rare de voir une personne très, très malade, très, très diminuer avec le VIH. Donc, en ce moment aussi, le VIH, ça a empêché les personnes d'aller à leur occupation. S'il y avait une personne malade dans la famille, c'est toute la famille qui s'occupait de lui. Il ne peut rien faire, mais aujourd'hui, Dieu merci, avec les traitements, les personnes, s'ils sont observants au traitement, ils peuvent faire tout. Ils sont comme les autres personnes.
Ils ne sont plus stigmatisés par la population.
Bon, la stigmatisation, ça persiste un peu, mais c'est rare de voir une personne infectée en le voyant qu'on sent qu'il est malade. S'il ne fait pas de témoignage, en le voyant, on ne peut pas le savoir. C'est grâce au traitement.
Donc, l'accès au traitement a permis d'améliorer votre qualité de vie aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Et avant, on entendait dire aussi que les personnes qui vivent avec cette maladie ne vivaient pas longtemps. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui?
Bon, moi, j'ai dit que c'est pas vrai. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont, sur leur statut, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, ils vivent bien et ils vivent positivement avec leur maladie. Ils sont en bonne santé.
Alors, docteur, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, juste pour aussi préciser cela et pour illustrer. Mm-hmm. Aujourd'hui, il est scientifiquement démontré qu'une personne vivant avec le VIH, par exemple, qui a 20 ans, qui se fait tester et positif au VIH, qui prend le traitement correctement, qui est avec une charge virale indétectable, la personne a la même expérience de vie qu'une personne non infectée. Donc, le fait d'être infecté par le VIH ne change pas grand-chose aujourd'hui si tu prends correctement ton traitement. Tu te fais dépister, tu prends correctement ton traitement. Mais si tu ne te fais pas dépister et que la maladie arrive à te terrasser finalement, ça peut entraîner des complications désastreuses. Mais le message fort, il faudra qu'aujourd'hui nous incitons tout le monde à aller se faire dépister. Parce que plus tu te fais dépister, on a aujourd'hui ce qu'on appelle tester et traiter. On te teste, on te met sous traitement. Il fut un moment, quand on te testait, on disait qu'il fallait attendre que le système immunitaire soit un peu affaibli pour le mettre sous traitement. Ça, on a dépassé tout ça maintenant. On te traite aujourd'hui, on te met sous traitement. Donc, l'organisme n'a pas le temps d'être détérioré. Ce qui fait que tu te dépistes, tu commences ton traitement, sauf si toi-même tu dis à quelqu'un que tu as le VIH. Sinon, à travers ton apparence physique, personne ne pourrait soupçonner que tu as le VIH. Donc, c'est l'intérêt de se faire dépister à temps. Faisons-nous tous dépister et en cas de positivité, la personne sera mise sous traitement le plus rapidement possible et elle peut mener sa vie, expérience de vie normale.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les mentalités ont évolué à l'endroit des personnes qui vivent avec cette maladie et aux personnes qui vont aujourd'hui se faire dépister? Parce qu'on se rappelle, il y a 10 ou 20 ans, les gens n'étaient pas aptes même à venir faire les dépistages. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de personnes qui vont dans ce sens-là? Et est-ce que les regards ont changé et à l'endroit des personnes qui vivent avec la maladie?
Les regards n'ont pas fondamentalement changé parce que il faut un gros travail pour arriver à réduire considérablement la stigmatisation et la discrimination. Les regards n'ont pas fondamentalement changé. Mais c'est l'évolution des techniques et des technologies qui est en train de changer la tendance. Moi, je vous dis aujourd'hui, avec les médicaments que nous disposons, avec tout ce que nous disons comme arsenal de thérapeutique, quelqu'un qui s'est fait dépister le plus rapidement possible, qui est mis sous traitement, on ne peut pas soupçonner le VIH. La fois passée, c'est parce qu'on voyait des gens, comme elle a dit, des gens à la limite qui se résumaient à leur squelette. En ce moment, donc, c'était le rejet social, c'était tout ce que... Mais aujourd'hui, on a moyen d'anticiper cela. On a moyen de faire en sorte qu'on ne puisse plus voir des squelettes vivants. Et pour moi, c'est ça le message. Et si on arrive à travailler suffisamment sur ça, finalement, il y aura moins de discrimination, il y aura moins de stigmatisation, parce que les gens vont accéder très tôt au traitement. Mais tant qu'on laissera les gens finir, il y aura de la stigmatisation, il y aura de la discrimination. Donc nous devons tous travailler au niveau de nos familles pour que les gens aillent se faire dépister.
Les gens doivent se faire dépister. Vous êtes du même avis, M. Ousmane Traoré?
Bon, disons, j'aimerais répondre un peu sur... Oui, parce que la maladie à VIH, c'est une maladie, je dirais, un peu sournoise qui fait que la personne infectée peut rester très très longtemps sans déclarer physiologiquement la maladie. En fait, on peut traîner le VIH pendant plus d'une décennie sans pour autant avoir des symptômes apparents ou des... Alors, ce qui fait que les personnes infectées peuvent rester et ne seront peut-être pas avec qui ils ont attrapé le VIH et par ailleurs. Alors, ils ne peuvent pas savoir, c'est pas comme les maladies comme le paludisme ou autre. Mm-hmm. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens restent campés sur leur position jusqu'à ce que la maladie elle-même se déclare à eux. Alors, c'est en ce moment qu'ils vont aller commencer à aller chercher les médicaments au niveau des services de santé après un dépistage, entre autres. Alors, maintenant, pour revenir à la question, oui, la stigmatisation, la discrimination sont les défis auxquels on est confronté jusqu'à présent dans le pays. Et aujourd'hui, il est vraiment dommage qu'on continue à indexer les gens, notamment à cause d'une infection qui peut venir de nulle part.
Mais sur le terrain, comment se passe la sensibilisation auprès de la population? Est-ce que les gens sont plus aptes à venir vous écouter, à se faire dépister et à comprendre la situation dans laquelle les personnes qui ont cette maladie la vivent? Est-ce que les gens viennent vers vous pour écouter vos messages de sensibilisation et participer à vos actions?
Bon, nous, bon, à notre niveau, mm-hmm. c'est pas justement d'aller directement aux personnes, comment dire, à la population générale. Mm-hmm. Notamment, nous faisons un peu du faire-faire à travers les structures qu'on appuie, c'est-à-dire surtout les communautaires, mm-hmm. et généralement à travers les associations, les ONG, entre autres, c'est eux qui interviennent
directement sur le terrain
par rapport aux interventions de sensibilisation, de communication. Peut-être nous pouvons faire des communications à large échelle, au niveau pays, entre autres, à travers les médias, à travers les autres voies de communication. Et maintenant, l'approche, comme elle connaît si bien, c'est généralement, il y a plusieurs dispositions qui sont prises à ce niveau. Il y a, par exemple, même aujourd'hui, on connaît, il y a des prédicateurs, des mentors, il y a aussi des campagnes inopinées qu'on fait dans les villages ou bien au niveau cercle. Aussi, il y a les structures de santé aussi qui organisent parfois des journées par rapport au VIH. Alors, c'est tout ça là qui font que on essaye au moins de créer la demande et puis que les gens puissent se faire dépister. C'est le dépistage quand même qui est la chose, et peut-être le point d'entrée de tout ce qu'on fait comme travail. Alors si la personne accepte de se faire dépister, et si malheureusement elle est séropositive, et c'est là que tout l'autre engrenage vient avec le conseil psychosocial, avec l'accompagnement pour mettre un peu à l'aise la personne et qu'il puisse au moins accéder le plus rapidement possible aux médicaments.
Madame,
si vous me permettez, vous me permettez, je voulais un peu réagir par rapport à l'acceptation. Mm-hmm. Le taux d'acceptation est très élevé. Moi, je voyage beaucoup à l'intérieur du Mali. quand je vais, je m'intéresse un peu à tout ce qui se fait au niveau de cette structure de santé, même sur le terrain. Mais le message qu'on remonte, le taux d'acceptation est très élevé. Mais le défi, par contre, que nous avons...
Nous allons en terminer l'émission avec cette.
Oui, défis. Le défi fondamental, c'est la disponibilité des tests.
Oui.
Des réactifs.
On va en venir, M. Diallo. Oui. D'ici là, on donne la parole à Mme Mariam Touré. Madame, sur le terrain, vos co-débatteurs viennent de le dire, l'accès au traitement est une réalité et les traitements sont efficaces. Vous avez une meilleure qualité de vie maintenant. Mais quelles sont les difficultés auxquelles les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA sont confrontées réellement ici au Mali, si le tableau est si reluisant?
Bon, les difficultés, c'est... D'abord, concernant la prise en charge, il arrive souvent qu'il y a une rupture d'intra ou bien les machines sont en panne par rapport au bilan biologique. Ça, ce sont des difficultés. Soit s'il y a les intrants, la machine est en panne. Si la machine est en bon état, on a les intrants sont en rupture. Ensuite, c'est la discrimination en milieu de soins et dans la communauté. En milieu de soins, si le point focal VIH est absent, et une personne infectée qui vient ce jour-là n'aura pas satisfaction de sa consultation ou bien d'autres choses. Ensuite aussi, il y a une loi VIH qui n'a pas été révisée. On veut que cette loi soit révisée et que ça soit en application sur toute l'étendue du territoire malien.
En gros, est-ce qu'on peut connaître le contenu de cette loi?
Bon.
Qu'est-ce que la loi dit en gros?
Bon, la loi dit beaucoup de choses. Ça protège les personnes vivant avec le VIH et le corps médical. Ensuite, la loi donne autorisation à un médecin ou bien un agent de santé d'annoncer le statut de la personne à son partenaire ou bien à son conjoint 15 jours après avoir connu son statut. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Ensuite, on a des CPS comme on a parlé de la communauté. Nous, on est là, on accompagne le corps médical dans la lutte contre le sida. Donc, nos CPS sont là, ils font de beaux travail, mais on veut que ces CPS soient reconnus. Leur fonction, que ça soit reconnu.
Docteur Bassirou Diallo, pour votre dernier mot, et vous avez évoqué il y a un moment les questions de défis, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Allez-y, pour terminer.
Oui, moi je rappelle encore qu'il y a 9,2 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au traitement antirétroviral. Donc ça c'est un énorme défi et nous sommes interpellés. Parce que nous disons aujourd'hui, quand quelqu'un est sous traitement antirétroviral, la chaîne de transmission est arrêtée. Et malheureusement, dans le monde encore, 9,2 millions de personnes vivant avec le VIH n'ont pas accès à un traitement antirétroviral. Ça, c'est un grand défi. Quand on prend aussi le Mali, il y a des défis. Mariam a mis l'accent sur pas mal de défis. Si on arrive à corriger cela, la disponibilité déjà des intrants, et ça peut aider à faire des pas énormes. L'autre défi aussi, c'est la mobilisation des fonds, le financement de la lutte contre le sida. De plus en plus, on commence à diminuer, alors que les besoins demeurent toujours. Donc ça aussi, c'est un grand défi. Et il faudra que de plus en plus, les pays même commencent à mobiliser. Donc c'est ce qu'on appelle le financement interne. Il faudra qu'on renforce davantage cela, parce qu'on ne peut pas continuer à espérer sur le financement de l'extérieur, surtout qu'il commence à diminuer de façon considérable.
Alors, pour terminer, M. Ousmane Traoré, pensez-vous que d'ici l'horizon 2030, on parviendra à stopper cette maladie?
Ah, c'est notre souhait, c'est notre souhait. Aujourd'hui, on a fait un cadrage stratégique ciblé sur arriver au moins à 95% de nos objectifs d'ici 2026. Ceci, bon, à travers peut-être relever le niveau de nos interventions, notamment pour adresser les défis qu'annonçait Dr Diallo, notamment les défis sanitaires, étendre l'offre de services, éliminer la transmission mère-enfant et également la qualité des soins, la qualité de la prise en charge aussi. Bon, au niveau politique aussi, il y a quand même le leadership qui doit être porté au plus haut niveau, qui permettrait notamment de faire baisser la discrimination, la stigmatisation, que les leaders s'impliquent pour sensibiliser les communautés, pour sensibiliser les populations au risque d'infection à VIH.
C'est la fin du débat. Le thème était lutte contre le sida au Mali quand les chiffres alertent. Et nos invités étaient Dr Bassirou Diallo, Sciences Service System Advisor à ONU SIDA, Ousmane Traoré, chef de département planification, suivi, évaluation au secrétariat exécutif du HCNLS, Mariam Touré, porte-parole de l'Association des personnes vivant avec le sida, présidente de l'association Rema Plus. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission qui a été réalisée par Imira Nakilou Maïga. À la régie, il y avait Adjaratou Traoré et Mamadi Keita. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.